Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est aujourd'hui la fête du Sacré-Cœur, et je vais vous parler cependant de Job, parce que Job est la figure du Sacré-Cœur. Et par conséquent, en étudiant Job, nous allons mieux comprendre le Sacré-Cœur de Jésus. Pour que vous compreniez bien, il faut que je vous rappelle l'histoire de Job brièvement. Vous vous rappelez que Job était un homme simple, droit, craignant Dieu et fuyant le mal. Or Dieu va attirer l'attention de Satan sur cet homme extraordinaire. « As-tu vu mon serviteur Job ?» Satan, ainsi provoqué, répond à Dieu « Oui, je l'ai vu, mais il n'a aucun mérite à être simple, droit, craignant Dieu et fuyant le mal, parce que tout lui réussit. » Alors Dieu dit à Satan « Je t'autorise à le toucher dans tout ce qui lui est extérieur, mais tu ne le touches pas lui. » Et donc vous savez que Satan va provoquer la perte d'abord de tous les biens de Job, et puis de ce qui lui est encore extérieur, mais quand même beaucoup plus proche de lui et bien intime, c'est-à-dire ses enfants. Et Satan revient devant Dieu, ou plutôt Dieu rappelle Satan, et il lui dit « Alors tu as vu sa sainteté ?» brille trois fois plus qu'auparavant. Satan répond, « C'est évident, Seigneur, vous ne m'avez pas permis de le toucher, lui. » Et Dieu dit, « Eh bien, soit, je t'autorise à le toucher, mais tu préserves son âme. » Au sens littéral, préserver l'âme, ça veut dire tu ne le fais pas mourir. Mais c'est exprès que l'Écriture sainte dit, « Préserver l'âme, nous allons voir pourquoi. » Satan envoie alors une maladie sur Job, et Job en est réduit à gratter ses ulcères avec un tesson d'argile, et il est assis sur un fumier. Alors Satan, qui bien entendu n'a pas l'intention d'obéir à Dieu, va aller encore un peu plus loin, et il envoie la femme de Job pour le persuadé de se révolter contre Dieu, mais cela ne marche pas non plus. Alors Satan utilise sa dernière carte et il envoie des amis qui, sous prétexte de compassion, vont chercher, malgré eux, malgré leurs bonnes intentions, vont chercher, sous l'influence de Satan, à faire tomber Job. Et même là, ça ne marchera pas. La première chose très surprenante, c'est que Dieu provoque Satan contre Job. Alors on peut se poser la question, savoir pourquoi Dieu permet ainsi que des hommes soient affligés. On donne souvent la réponse que c'est en punition des péchés, mais nous verrons plus tard que Job dit « Non, je n'ai pas péché ». J'ai toujours été fidèle à Dieu. Alors, il y a une autre raison, bien sûr. Nous voyons dès le début de la Genèse que Satan avait l'autorisation de tenter Adam et Ève. Il ne serait pas entré dans le paradis terrestre si Dieu ne lui en avait pas donné la permission. On peut donc se demander pourquoi Dieu permet ainsi à Satan de tenter les hommes, et ceci depuis le premier homme. La première raison, c'est le progrès et d'une certaine façon la gloire de l'homme fidèle. Je vais vous expliquer. La deuxième raison, c'est la gloire de Dieu, car c'est lui qui donne aux fidèles de triompher. Et quel triomphe ! La troisième, c'est que Dieu humilie Satan en l'obligeant à le servir, lui, Dieu. Il oblige Satan à le servir à travers les tentations, Dieu donnant la force aux fidèles, C'est comme une espèce de duel très inégal dans lequel Satan se donne beaucoup de mal et Dieu, sans aucune difficulté, à chaque fois a le dessus sur Satan. Mais comme l'homme ne va pas profiter, comme Dieu le voulait, de ses épreuves, alors le duel va être directement entre Satan et Jésus-Christ. Terminons-en avec Adam. Si Adam avait été fidèle à Dieu, il aurait eu dans les épreuves une gloire semblable à celle du Christ. Il n'y aurait pas eu le Christ, parce qu'il n'y en aurait pas eu besoin, et Adam, chef de l'humanité, aurait eu une gloire extraordinaire. Je dis semblable à celle du Christ, évidemment pas égale à celle du Christ. Il aurait constamment écrasé le démon. Il aurait peuplé la terre de saints. Les attaques du démon auraient été une difficulté qui aurait augmenté la beauté de l'œuvre réalisée par Adam. Je vais vous prendre un exemple. On peut écrire en prose, mais des grands poètes vont choisir exprès la difficulté en s'obligeant à écrire avec des rimes à la fin de chaque phrase et avec un nombre de syllabes précis, on appelle ça les pieds, dans chaque vers, et certaines formes d'ailleurs sont assez complexes, comme les sonnets. En latin, la difficulté est encore plus grande, puisque le poète s'oblige à respecter un rythme, et comme une musique qui se rajoute aux paroles. Prenez le Stabat Mater, par exemple. Stabat Mater Dolorosa, Iuxta Crucem Lacrimosa, Num Pendebat Filius. Ça paraît tout naturel, mais il faut un grand art pour écrire ainsi 20 strophes à la gloire de la Sainte Vierge en s'obligeant à respecter toujours le même rythme. Je vous donne un autre exemple. Lorsque l'homme fait des églises, des temples, la gloire de Dieu, il multiplie les difficultés pour que son œuvre soit plus belle. C'est particulièrement vrai dans les cathédrales gothiques. On ne fait pas 4 murs avec un toit, mais on se donne beaucoup de mal pour faire une sorte de sculpture de pierre. Si Adam avait été fidèle, la chrétienté aurait été quelque chose de magnifique. Nous voyons maintenant Job, figure du Christ. Lorsque Dieu convoque Satan pour la deuxième fois, il dit à Satan, « Tu m'as poussé contre Job, et cela n'a servi à rien. » Et c'est là que nous arrivons au Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur a été comme poussé, provoqué. Lorsqu'il a vu l'homme si faible devant Satan, il a été poussé, provoqué à envoyer Dieu le Fils pour se faire homme et lutter directement contre Satan pour sauver les hommes. Il est évident que ce n'est pas Satan qui a poussé Dieu, c'est une manière humaine de parler, mais qui est très expressive. Dieu a été ému. Et le Christ, le Sacré-Cœur, a été ému. Tu m'as poussé en vain, dit Dieu. Saint Grégoire le Grand fait remarquer que ça n'a servi à rien du côté du Christ, mais ça n'a pas été vain du côté du salut des hommes. Je n'insiste pas sur toutes les épreuves que le Christ a subies, c'est toute sa passion, et je tiens à faire remarquer que Dieu dit à Satan, tu ne toucheras pas à l'âme de Job, donc à l'âme du Christ. Et Saint Grégoire le Grand fait nous faire remarquer, qu'est-ce que l'âme du Christ? L'âme, c'est ce à quoi on tient le plus. Or, à quoi ou à qui le Christ tient-il le plus sur la terre? Eh bien, aux élus, à ceux qui sont fidèles et qui sont comme son âme. Et de même que la divinité est présente à l'âme de Jésus-Christ pour la soutenir, de même Jésus-Christ est présent à son âme, c'est-à-dire au fidèle. C'est lui qui lutte en eux. C'est lui qui les rend invincibles. Enfin, dernier point que je tiens à vous faire remarquer, c'est que le Christ, représenté par Job, est sur un fumier. Il n'hésite pas à s'asseoir sur la pourriture du monde pour gratter la plaie du péché. Et ce faisant, il est assis sur un fumier. Qu'est-ce que le fumier? C'est ce qui est le plus méprisable. C'est ce qui est plein de pourriture. Et notre Seigneur vient sauver ce fumier. Saint Grégoire le Grand dit, notre Seigneur va se mélanger aux pécheurs. Il va se mélanger à tout ce qu'il y a de plus faible. Et pour vaincre l'orgueil de Satan, il va prendre ce qu'il y a de plus faible. Saint Paul dit, nous sommes la balayure du monde. C'est exactement la même chose. Alors, mes bien chers frères, voilà qui est très encourageant. Tout d'abord, pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, je pense particulièrement aux convertis récents qui ont l'impression qu'ils ne pourront jamais arriver à être des grands chrétiens. Je pense à tous les blessés du monde moderne qui ont tant de mal, qui trouvent la tâche de pratiquer tous les commandements vraiment bien ardue, peut-être même impossible, qui pensent qu'ils n'ont pas la force, qui sont tentés de découragement, de lassitude. Voilà les faibles, les démunis, que Dieu veut faire triompher à la suite du Christ. Un triomphe à la face de Satan, bien sûr, mais également à la face de ses complices, qui sont tous enflés d'orgueil, de richesse, de fausse puissance. Mais bien, chers frères, vous avez dans l'Évangile des conversions extraordinaires. Quand je dis extraordinaires, je veux dire qu'ils donnent un tel éclat. Sainte Marie-Madeleine, Zachée, Saint Matthieu, mais également le paralytique, un pauvre paralytique plein de péchés et en plus paralysé. Et cela continue. Ne regardez pas seulement les grands saints, parce que les grands saints, déjà, ont été des hommes faibles par nature. S'ils ont fait des grandes choses, c'est par la grâce de Dieu, par le soutien de Dieu, parce que Dieu était dans leur cœur. Mais ils ont été combattus par le démon, comme Job. S'ils ont fait de grandes choses, ce n'est pas parce qu'ils ont échappé aux difficultés, aux tentations, aux épreuves, non. Au contraire. Mais c'est parce que, grâce à leur fidélité à Dieu, c'est Dieu qui réalisait en eux toutes ces choses merveilleuses. Mais il ne faut pas voir seulement les grands saints, il faut penser à la conversion de tant et tant de païens qui étaient loin de Dieu. Je pense aux papous qui, en une génération, 25 ans, verront fleurir dans leur peuple une congrégation de sœurs papous. Alors que 25 ans avant, leur mère sacrifiait le premier enfant au démon en lui cassant la tête sur un rocher. Alors vous tous, parmi ceux qui m'écoutez et qui êtes tentés de découragement, je ne pense pas quand même que votre mère ait jamais cassé la tête de son premier-né sur un rocher en offrande au démon. Vous me direz, il y a quelquefois des mères qui font pire que cela. C'est vrai, l'avortement. Eh bien, justement, ce sont tous ces pécheurs que Dieu convertit pour sa gloire, pour son triomphe et pour la défaite de Satan. C'est l'œuvre du Sacré-Cœur. Et je vais terminer sur la signification morale de ce qui est arrivé à Job. Vous avez vu la progression des épreuves que Satan a envoyé à Job. Tout d'abord, ses biens, ses serviteurs, ses troupeaux, et puis après ça, quelque chose qui est beaucoup plus proche de lui, tout en restant à l'extérieur, ses enfants, et puis après ça, son corps, qui est encore à l'extérieur de son âme, mais qui est en lui. Et puis, comme cela n'a pas marché, alors Satan a réservé deux dernières cartes. L'avant-dernière, c'est sa femme qui vient lui reprocher en lui disant « Maudit Dieu, et tu reprendras ta vie d'avant ». Saint Grégoire le Grand nous fait remarquer que Satan, évidemment, pour suggérer à Job de pécher, ne va pas prendre d'abord un étranger, mais celle qui lui est le plus proche. Et c'est la même chose dans l'Évangile. Jésus-Christ nous rappelle que c'est dans notre maison que sont nos ennemis. Il est évident qu'un étranger n'est pas particulièrement dangereux. Vous me direz, mais alors faut-il nous méfier de tous ceux de notre maison? La femme doit-elle se méfier de son mari? Et le fils doit-il se méfier de son père, etc.? Non, bien entendu. Mais nous devons nous méfier de ne pas tendre la main au démon dans notre amour filial, conjugal, paternel, maternel. Je m'expliquais. C'est au fruit qu'on juge l'arbre. Les membres de votre maison vous aident-ils à monter dans l'amour de Dieu? Alors faites-leur confiance, totalement confiance. Les membres de votre maison, au contraire, vous éloignent-ils de Dieu? Alors considérez que leurs suggestions sont d'autant plus dangereuses qu'ils sont proches de vous. C'est la même chose dans l'Église, pas seulement dans les familles. Saint Grégoire nous dit que ceux qui font profession de la foi chrétienne, quand ils se conduisent mal ou suggèrent des choses mauvaises, sont beaucoup plus dangereux que les païens qui ne font pas profession de la foi chrétienne. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le démon a conservé cette carte pour les dernières luttes de l'Église. De chrétiens qui font profession de la foi chrétienne, mais qui n'ont plus l'esprit de lutte. À la suite du concordat avec Napoléon, ce révolutionnaire couronné, Napoléon faisait très attention de choisir des évêques pieux, de manière à ne pas indisposer Rome. Et il ne choisissait évidemment pas des évêques révolutionnaires, ça ne serait pas passé, mais il prenait des évêques qui n'avaient plus le sens du combat, qui étaient pieux, mais ne cherchaient plus le triomphe de l'Église. Pas tous, bien sûr, mais un grand nombre. Saint Grégoire nous fait remarquer que celui qui a la foi sans combattre n'est rien, et que celui qui combat sans la foi n'est rien, et que les grands saints ont toujours été attentifs à avoir les deux qualités, d'une grande foi ou d'une grande piété, et du combat contre le démon, contre le mal, le combat pour le Christ roi. C'est sur ce critère qu'une femme doit accepter un mari, qu'un mari doit chercher une épouse, et que vous, mes bien chers frères, vous devez chercher les prêtres qui puissent vous sanctifier et vous guider. Simple, droit, craignant Dieu et fuyant le mal, c'est-à-dire combattant le mal. Voilà également, mes bien chers frères, pourquoi je mets en garde. Il y a des écoles catholiques qui sont plus dangereuses que des lycées d'État. Pas toujours, il faut discerner, bien entendu. Mais il ne faut pas poser la règle, toute école catholique est meilleure qu'un lycée d'État. Parce que dans les écoles catholiques, vous avez des femmes qu'on aime et dont on écoute les suggestions. Surtout quand on est un enfant peu formé. Et puis, de même, tous les cousins ne sont pas de bonne fréquentation pour vos enfants. Il faut avoir le courage de fuir les cousins quand ils tirent vers le bas et de trouver des amis pour vos enfants qui tirent vers le haut. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, hâtez le triomphe de votre Fils au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.